Alors, verset 15. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus prit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. On va encore s'incliner dans la prière. Seigneur, merci encore et encore, Seigneur, parce que tu nous fais du bien toujours par les Écritures. Seigneur, tu te révèles à nous. Je te remercie encore pour ce passage. Je te demande que tu le bénisses. Je te demande que tu bénisses nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions en tirer toute la nourriture, tout le pain que tu veux nous donner pour nos âmes, Seigneur. Nous avons vu ce matin que ta parole nous sanctifie. Seigneur, le fait de lire ce que tu dis, Seigneur, et ce que tu nous annonces en vérité, ce que tu nous annonces sur toi-même, tout cela nous sanctifie, Seigneur, et nous prions que ce matin encore, elle nous fasse du bien, qu'elle nous sanctifie, qu'elle nous transforme à ta ressemblance. Seigneur, que nous puissions t'adorer ensemble devant le grand Dieu que tu es et devant ce que tu as fait pour nous. Seigneur, merci. Merci de m'aider, de m'inspirer, de me conduire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans notre passage ce matin, on fixe l'attention sur Dieu. Hein. Qui est Dieu ? Dieu, c'est un mystère. C'est clair que c'est un mystère. Et beaucoup d'hommes s'imaginent Dieu de telle ou telle manière. Hein. En fait, Dieu doit être comme ceci ou comme cela. Alors, eh bien, on lance des hypothèses, des suppositions, et parfois, ça devient des certitudes. On affirme que c'est comme ça ou autrement. Hein. Mais c'est pas notre petite intelligence, hein. C'est clair. C'est pas nos raisonnements humains. C'est pas notre perception des choses qui fait que on s'élève jusqu'au ciel. Et qu'on devient capable d'expliquer réellement qui est Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. On est des créatures et il faut jamais qu'on l'oublie. Mais notre passage ici aujourd'hui nous parle de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au travers de lui, eh bien, on voit Dieu aussi dans toute sa plénitude. Et parce que l'homme ne pouvait pas s'élever jusqu'à Dieu pour comprendre Dieu, eh bien, c'est Dieu qui est descendu jusqu'à l'homme. Pour se révéler à nous, en fait, pour nous permettre eh bien, de le comprendre. Et au travers de sa parole inspirée, eh bien, c'est Dieu qui se dévoile, c'est Dieu qui montre un peu de lui-même. Hein. Il plaît à Dieu de cacher les choses, mais aussi de les révéler. La tâche de l'homme, eh bien, c'est de chercher hein, et lire les Écritures pour comprendre eh bien, qui il est. Alors, eh bien, on vient de lire ce texte de Jean, où l'homme, il y a cet homme qui a été guéri à cette piscine de Bethesda, et au départ, il ne savait pas qui l'avait guéri, si vous vous souvenez de tout le passage. Et finalement, eh bien, Jésus est revenu vers lui, et puis il a compris, ah, c'est Jésus. Alors il est allé dire aux Juifs, eh bien, c'est Jésus, Jésus de Nazareth, hein, c'est lui qui m'a guéri. Alors, eh bien, ces Juifs se sont mis à poursuivre Jésus parce qu'il faisait des miracles le jour du sabbat, et pas simplement à cause de cela. On va reprendre un peu notre lecture, regardez verset 17. Il dit, mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Alors, ça peut sembler une petite phrase là, qui a pas beaucoup d'importance, hein, mais Jésus dit quelque chose de très important qui va scandaliser tous les Juifs, hein, et ce qui va provoquer un vrai tollé, c'est simplement deux mots, « Mon Père ». Mon Père. Alors ça, d'un seul coup, c'est monté dans leur cœur, hein. Jésus vient d'appeler Dieu son Père. Verset 18, regardez. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Et je vous disais, quand on pense à Jésus-Christ, quand on pense à Dieu, on se fait une image de Dieu. Quand on pense à Jésus-Christ, on imagine aussi qui est Jésus-Christ. Et pour beaucoup, bien sûr, bien Jésus, c'est juste un homme. Pour beaucoup d'autres, dans l'islam, c'est un prophète qui vient de Dieu. Pour d'autres, c'est un petit Dieu avec un petit dé. Hein, les témoins de Jéhovah avancent ça et disent, ah, mais c'est un petit Dieu, une créature finalement de Dieu, la première créature de Dieu, selon eux. Pour d'autres, il est fils de Dieu, vraiment, il est un fils de Dieu, mais un peu comme un ange. Et on va même jusqu'à dire, c'est le frère de Lucifer. Ça, c'est les Mormons, hein, les Mormons qui avancent cela. Pour d'autres, enfin, ils se disent, c'est Christ, en fait, c'est l'esprit qui se retrouve dans les personnes les plus avancées spirituellement. Et on va parler de l'esprit christique. Voilà, c'est toutes les philosophies orientales, hein, il y a plein de pensées comme ça, voilà, l'esprit christique, hein, ça devient très mystique. Hein. Et chacun se fait sa petite idée. Mais en fait, on ne saurait absolument rien de Jésus-Christ, hein, si Dieu ne nous avait pas donné sa parole qui nous parle de Jésus-Christ. Hein. C'est la Bible, premièrement, qui nous parle de Jésus-Christ, hein, c'est clair. Hein. Et parce qu'on a un récit qui est inspiré, qui est historique, qui est circonstancié, alors eh bien, on peut savoir qui est Jésus-Christ. Il se révèle à nous au travers de sa parole inspirée. Et ce qui frappe dans notre lecture de Jean 5, c'est que, en fait, les Juifs avaient parfaitement compris que Jésus se mettait à l'égal de Dieu son Père. Ils l'avaient compris, eux. Hein. Certains ne veulent pas le voir aujourd'hui, mais eux l'avaient bien compris. Hein. Ils le côtoyaient. Et ils se sont dit, mais c'est pas possible. Se faisait lui-même égal à Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on voit dans notre texte d'abord les éléments qui nous montrent que Jésus est Dieu à l'image de son Père qui est Dieu. Hein. Tous les deux, ils sont égaux, bien que distincts l'un et l'autre. Alors pourquoi peut-on dire qu'il est égal à Dieu ? Il y a quatre choses. Parce qu'il est de même nature divine, hein, c'est clair. Il a le même pouvoir, la même puissance. Il a aussi la même autorité. Et puis, il est digne de recevoir le même honneur, la même gloire. Et c'est ce qui ressort de tout le texte. Regardez d'abord, il est de même nature divine. Les Juifs avaient compris que si Jésus parlait de Dieu comme étant son Père, hein, c'est qu'il laissait entendre qu'il était de même nature, en fait, que Dieu le Père. Et c'était un scandale pour les Juifs. Un scandale. Pourquoi ? On l'avait vu précédemment dans un autre message. Hein, c'est que Moïse, les prophètes, disaient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul et unique Dieu. Alors, comment pourrait-il y avoir qu'un seul Dieu et en même temps à quelqu'un qui affirme être le Fils de Dieu égal à Dieu le Père. Comment c'est possible ? Mais la Bible nous révèle qu'il y a Dieu le Créateur et qu'il a un fils unique, un fils qui est éternel. Et ce qui a scandalisé les Juifs, c'était d'entendre que Jésus appelait Dieu son Père. On a vu ça au verset 17. Et à partir du verset 19, quand vous lisez toute la suite, donc le début du verset 19 dit « Jésus reprit donc la parole et leur dit ». Et qu'est-ce qu'il va leur dire maintenant ? Si vous lisez, vous relisez tout le texte, vous allez trouver une quinzaine de fois Jésus qui n'arrête pas de dire qu'il est le Fils et que Dieu est son Père. Il est le Fils et c'est son Père. Et il le répète, il le répète 15 fois. C'est énorme. Il venait d'être scandalisé à l'idée d'apprendre comment ça. Il dit que Dieu est son Père et Jésus le répète. Il le répète 15 fois. C'est fort quand même, hein ? C'est fort. C'est comme s'il enfonce le clou, en fait. Il enfonce. Vous avez compris que je me fais égal à Dieu, mon Père ? Eh bien, entendez-le encore, et encore, et encore, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Et avant d'expliquer ce lien qui unit le Père et le Fils, et comment eh bien, ils coexistent d'une manière éternelle, c'est très important de comprendre qu'ils ont la même nature. Ils ont la même nature, ils sont égaux, parce qu'ils sont de même nature divine. Tous les deux sont Dieu. Dieu singulier. Tous les deux. Et ce n'est pas qu'il y a plusieurs dieux, hein, qu'il y aurait trois dieux qui ne forment qu'un. C'est pas ça du tout. Hein. Mais il y a un seul Dieu formé de plusieurs personnes. De trois personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors, vous savez, des fois, on a une confession de foi. On trouve des confessions de foi, on trouve aussi des catéchismes, et où on va essayer de, comment dire, d'expliquer d'une manière claire et simple sur quoi se base notre foi. Donc c'est toujours tiré des Écritures, hein, mais c'est pour expliquer, hein, en quelque sorte, ce que l'on a compris au travers des Écritures. Et il y a un catéchisme qu'on appelle le catéchisme de Westminster, qui l'énonce très bien. Alors il dit, il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les trois sont un seul Dieu, d'une même substance, égale en puissance et en gloire, mais distinctes selon leurs vertus personnelles. Voilà, c'est un résumé finalement de notre foi, de notre conviction, et de ce que la Bible enseigne. Et si on recoupe tous les textes bibliques, eh bien on voit réellement que, eh bien, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils ne forment qu'un, et pourtant ils sont distincts les uns des autres. Et ce n'est pas que Dieu prend la forme du Père, et puis après il laisse la forme du Père, et il prend la forme du Fils, puis après il laisse la forme du Fils, et puis il va prendre la forme du Saint-Esprit. C'est pas ça, hein ? C'est pas ça du tout. Non, chacune coexistent ensemble. Elles sont ensemble. Par exemple, lors du baptême de Jésus, eh bien, Jésus est présent, le Saint-Esprit se manifeste sous la forme d'une colombe et on entend la voix du Père. Donc on voit bien là les trois personnes qui sont là, qui coexistent ensemble en même temps. L'un ne prend pas la place de l'autre, non, ils sont ensemble. Mais en même temps, le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne sont pas trois dieux qui sont séparés, hein. Ils sont liés, unis et ne forment qu'un seul Dieu. Un seul et unique Dieu, ils sont indissociables. On ne peut pas les séparer. Et lorsque Jésus va envoyer les apôtres pour aller faire des disciples, si vous vous souvenez, à la fin de l'évangile de Matthieu, il va dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et c'est intéressant de voir qu'il dit au nom singulier, un seul nom pour le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il ne dit pas au nom pluriel, au nom du Père et au nom du Fils et au nom... Non, au nom singulier, unique, un, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ils ne forment qu'un. Et les Juifs avaient bien compris que Jésus, eh bien, se faisait l'égal du Père en disant qu'il était son Fils. Et c'était la vérité, il était égal à son Père. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il a le même pouvoir, la même puissance que Dieu le Père. Regardez, on va lire la suite, avancer dans notre texte, versets 18 et 20. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Et le Fils fait exactement les mêmes œuvres que le Père, hein, puisqu'il fait les œuvres que le Père lui montre et qu'il attend de lui. Et comme le Père a la puissance de faire des miracles, c'est-à-dire d'aller à l'encontre des lois qu'il a établies, parce que c'est ça un miracle, hein. Un miracle, c'est aller à l'encontre des lois qui sont établies. Il peut faire quelque chose qui, voilà, normalement ça ne peut pas se faire, mais lui il le fait, hein. Eh bien le Fils, de la même manière, eh bien fait des miracles. Il va à l'encontre des lois qu'il a lui-même établies. Et c'était ce qu'il venait juste de faire à la piscine de Bethesda. Il venait de redonner la mobilité, le libre mouvement à quelqu'un qui était para ou tétraplégique. On sait pas, on sait qu'il était paralysé, c'est tout ce qu'on sait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? 38 ans, il me semble. Hein, 38 ans avant, sa colonne a dû se briser, quelque chose. Voilà, il y a eu la moelle épinière qui s'est rompue et il était paralysé. Et 38 ans après... ça ne se ressoude pas comme ça. Et lui, eh bien, en un instant, voilà, il lui redonne la mobilité. Il lui redonne la possibilité de vivre normalement. Et Jésus a fait un miracle. Il a le même pouvoir, la même puissance que le Père. Et ça s'est vu des centaines, peut-être des milliers de fois durant tout son ministère. Mais plus encore, regardez verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie... Ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut. Qui est-ce qui peut ressusciter un mort si ce n'est Dieu seul? Eh bien, Jésus-Christ avait sur terre, et il a toujours ce pouvoir, de pouvoir ressusciter un mort. Comme il veut. Verset 25 encore. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Et lorsque sera venu le temps, eh bien, tous les morts en Christ, hein, là il parle de ceux en Christ, hein, ils vont entendre la voix du Fils de Dieu. Et voilà, ça comme un ordre. Et là, ils vont reprendre un corps qui sera glorifié, qui sera transformé. Ils ressusciteront. Parce que le Père a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et la puissance de pouvoir redonner la vie à qui il veut. Donc ils ont le même pouvoir, la même puissance. Il est égal à Dieu le Père dans sa nature. Après, si on avance, on voit que le Père et le Fils ont la même autorité. Regardez verset 22. Il est dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et donc, il lui a remis l'autorité de juger. Bien sûr, les Écritures disent que Jésus n'est pas venu pour juger, premièrement. C'est clairement dit qu'il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Donc voilà, il cherche à sauver. Mais si une personne refuse d'être sauvée, si elle refuse et rejette Jésus-Christ, alors eh bien à terme, il devient un juge. Versets 27 à 29. Et il, donc le Père, lui a donné le pouvoir de juger. Parce qu'il est fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et tous les hommes vont ressusciter, absolument tous. Personne ne sera laissé pour compte. Mais les uns, ça sera pour la vie. Ils auront entendu la voix du fils de l'homme, hein, c'est la première résurrection. Et puis les autres ressusciteront pour le jugement. C'est la deuxième résurrection. Et c'est intéressant de voir qu'il est dit que le jugement repose sur le fils de l'homme. Il a le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Parce qu'en fait, il est descendu, il a pris une nature humaine, et voilà, hein, il sait exactement ce qui se passe en l'homme. Hein, et Dieu lui lui donne eh bien, le pouvoir de juger. Il a l'autorité pleine et entière à l'égal du Père éternel, parce qu'il est de même nature. Mais ensuite, on voit aussi que Jésus est digne de recevoir le même honneur que le Père. Alors, vous avez vu dans le culte, il y a Ésaïe 42,8 qui était affiché, on peut le reprendre. Qu'est-ce que dit Dieu au sujet de sa gloire et de son honneur ? Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu ne partage pas sa gloire et son honneur. Lui seul, c'est pour lui seul. Hein. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et il n'y en a qu'un seul qui est digne d'être honoré, glorifié, adoré, exalté. Lui seul, lui seul. Et pourtant, regardez Jean 5, 22 à 23. Il est dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. C'est très fort, c'est très très fort. Dieu ne partage pas sa gloire, son honneur avec quiconque. Personne n'en est digne. Mais pour le Fils, c'est pas pareil. C'est différent. C'est différent. Il faut au contraire absolument honorer, absolument élever et glorifier le Fils si on veut que le Père soit glorifié et honoré. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et donc le Fils, et honorer le Fils, c'est un passage obligatoire. La reconnaissance du Fils pour ce qu'il est, c'est obligatoire. Obligatoire. Et si quelqu'un diminue Jésus, imaginez, il y en a plein qui diminuent Jésus. Hein. Si on le diminue dans sa personne, on le diminue dans ses attributs, on le diminue dans sa nature en disant par exemple que c'est qu'une créature, c'est un petit Dieu. C'est un ange ou un simple prophète. Eh bien, on n'honore pas le Fils et on n'honore pas le Père. C'est fini. On se bloque, en fait. Hein. On se bloque. Dans ce cas, le Père n'est pas honoré. Et tout affront, tout rejet de Jésus, tout blasphème à Jésus, eh bien, c'est comme si on est en train de le faire à Dieu le Père. C'est pareil. C'est pareil. Pourquoi ? Parce qu'il a remis tout jugement au Fils. Et le Fils doit recevoir l'honneur et la gloire parce qu'il est Dieu, au même titre que Dieu, son Père. Imaginez ce qu'ont dû penser les Juifs qui étaient scandalisés de l'avoir simplement entendu dire « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi agis ». En fait, ils étaient outrés à l'idée qu'ils puissent se faire égal à Dieu en disant cela. Mais Jésus ajoute, oui, Dieu est mon Père, oui, je suis son Fils, vous avez raison. J'ai la même nature, j'ai le même pouvoir, la même puissance, la même autorité, et je suis digne de recevoir la même gloire, le même honneur, la même adoration. Et il va continuer, si vous lisez l'évangile de Jean, mais ça n'arrête pas en fait. Partir de là, mais il n'arrête pas de montrer qu'il est Dieu et qu'il est digne. Oui, Jésus est Dieu égal au Père. Mais en même temps, Jésus est différent du Père. Il est une personne distincte du Père. Comment expliquer cela ? Dans les versets que nous avons lus, peut-être vous avez vu, il y a quand même un lien de subordination entre le Père et le Fils. Vous avez remarqué, par exemple, verset 19, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Et dans ce verset, eh bien, on voit le Fils est soumis à son Père. Il obéit à son Père. Et on voit qu'il y a un ordre établi au sein de la personne de Dieu, de la divinité, de l'être divin, on pourrait dire. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Alors, en théologie, j'ai découvert, ça s'appelle la Trinité ontologique. Un nom un peu barbare, Et c'est simplement pour dire que le Père vient en premier, le Fils vient en second et puis ensuite vient le Saint-Esprit. Et ça ne veut pas dire qu'il y en avait un qui était avant les autres. Pas du tout. Ils sont éternels, tous les trois. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est supérieur aux autres. Non, le Fils est égal au Père. Et le Saint-Esprit est Dieu au même titre que le Père et le Fils. Mais ça nous parle plutôt des rapports qu'il y a entre eux au sein de l'être, Dieu, de la divinité. Alors c'est un des sujets que les témoins de Jéhovah ont très à cœur, parce que pour eux c'est le moyen de venir, désavouer et dénoncer que Jésus dise qu'il est Dieu, et pour eux il n'est pas Dieu, il n'est qu'une créature. Alors le verset qu'ils vont mettre en avant c'est Jésus qui dit « Le Père est plus grand que moi ». Alors ça, si vous parlez avec des témoins de Jéhovah, attendez-vous à l'entendre, c'est presque certain, c'est un des versets favoris. Et pour eux, Jésus qui dit « Le Père est plus grand que moi », c'est pour eux la certitude que Jésus est inférieur à Dieu le Père. Voilà, le Père est supérieur et Jésus est inférieur. Mais on vient de le voir, Jésus est l'égal de Dieu le Père. Il est l'égal. Il n'est en rien inférieur. Il est Dieu comme le Père. Par contre, il y a un ordre, c'est vrai, au sein de l'être Dieu, de la divinité. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mais on voit que dans les rapports de la divinité, l'action, donc il dit j'agis, comme mon Père agit, moi aussi j'agis, mais l'action est soumise à un ordre. Et on peut dire que toute action prend sa source en Dieu le Père. Ensuite, toute action s'accomplit en quelque sorte par le Fils. Il est le deuxième. Et puis enfin, toute action va venir s'effectuer, se réaliser par le Saint-Esprit. Il est le troisième. Alors comment comprendre ça? On va prendre un verset que vous connaissez par cœur. Et simplement, voir cette réalité. Donc le verset par cœur, c'est Jean 3,16. C'est tout simple. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu le Père a aimé les hommes. Il a aimé le monde, Et il a tant aimé ce monde qui pourtant a choisi de désobéir, de pécher, de s'éloigner de lui. Il a tant aimé qu'il a pensé à les sauver et il a voulu leur donner le moyen de l'être au travers de son Fils, Jésus-Christ. Et donc il a préparé ce salut dans l'éternité. Il est dit même qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Donc voilà, ça a pris sa source dans le Père. Ensuite, Dieu le Fils a rendu ce salut possible par la rédemption. C'est ce qui s'est passé. Jésus a dit, « Voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Donc, non pas qu'il a été forcé, comme on l'avait déjà vu, mais volontairement, il est venu accomplir ce qui a pris sa source dans le Père. Il est venu mourir pour nos péchés. Il a accompli notre salut. Mais comment le salut devient une réalité pour nous qui sommes ici-bas sur terre? Comment ça se concrétise? Mais c'est par l'action du Saint-Esprit. Jésus a envoyé le Saint-Esprit, une fois qu'il est remonté au ciel, qu'il a présenté son sang pour faire l'expiation de nos péchés. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est descendu pour nous convaincre de péché, de justice, de jugement, pour venir nous toucher par les Écritures et nous inviter à nous abandonner à Dieu, demander pardon et le recevoir. Et il nous a fait naître de nouveau. Nous avons été régénérés par l'action du Saint-Esprit en s'appuyant sur les Écritures. Par les Écritures et l'action du Saint-Esprit. Et donc on voit cet ordre établi. Et pour plein d'autres choses, domaines, dans toutes les Écritures en fait. Il y a un ordre clairement établi. On dira « dans la Trinité ». Alors, le mot « Trinité » n'est pas dans la Bible. Là encore, c'est un mot, parce qu'on a voulu tenter d'expliquer, définir
qu'est-ce qu'est Dieu, hein? Et voilà, si vous employez le mot Trinité, vous n'êtes pas en train de dire un blasphème. C'est juste une explication. Mais ce n'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible. Alors pour terminer, comment comprendre le fait que le Fils soit le Fils, que le Père est le Père? Normalement aussi, un Père donne naissance à un Fils. On est bien d'accord, hein? En tout cas, c'est comme ça que Dieu nous a créés, hein? Or, dans la Bible, il est clair que Dieu le Père n'a pas créé Jésus. Le Fils est incréé, on peut dire. Par exemple, on lit que c'est au Fils que Dieu le Père va dire « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Le Père dit au Fils « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Éternel. Voilà, il n'a pas de commencement et il n'aura pas de fin. C'est pour toujours. C'est pour toujours. Jésus est éternel. Il n'a pas un commencement dans l'histoire. Alors, comment comprendre cela? Pourquoi Jésus est le Fils s'il n'a pas été créé? Alors, tout à l'heure, je vous ai lu le catéchisme de Westminster. Donc, il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les trois sont un seul Dieu, d'une même substance, égale en puissance et en gloire, mais distinctes selon leurs vertus personnelles. Et le Père et le Fils sont égaux, c'est clair, comme Jésus l'a laissé entendre aux Juifs, mais cette égalité ne signifie pas qu'ils sont en tout point absolument identiques. Par exemple, le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils. Et le Saint-Esprit n'est pas le Père ou le Fils. Ils sont distincts. Et on peut dire que les trois personnes de la divinité ont des vertus distinctes, personnelles. C'est comme ça qu'on a essayé de le définir, hein. Ça veut dire qu'ils existent. Il y a des différences, mais ça n'enlève rien à leur égalité. Alors là, on s'avance, hein, pour essayer de comprendre Dieu. Alors, je suis allé plus loin que ça, hein. Ce matin, j'ai enlevé toute une partie parce que j'étais parti dans des livres de théologie qui expliquent ces choses ou qui essayent de les expliquer. Alors c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Il ne faut pas se dire, c'est sans importance. Non, Dieu nous demande d'essayer de le comprendre, hein, et donc on essaie de le comprendre en fonction des Écritures. Voilà, la Bible dit ça ici, qu'est-ce que ça veut dire sur toi Seigneur? Voilà, j'essaye de le comprendre. Et alors, en théologie, on dit que le Père engendre le Fils, c'est biblique, hein, c'est écrit, et le Saint-Esprit procède du Fils et du Père. Vient en quelque sorte du Fils et du Père. Mais on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est arrivé à un moment de l'histoire, comme si c'est arrivé à un instant T. Voilà, ça y est, là, la deuxième personne est devenue le Fils. On ne peut pas dire ça. Les Écritures ne disent pas ça, en fait, hein. Au contraire, elles disent plutôt qu'il est éternel, qu'il est en dehors du temps, et qu'ils sont tous égaux et éternels. Donc, voilà, ça a des limites. Mais on sait que le Père engendre le Fils, et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. En fait, il y a des vérités, on les accepte sans les comprendre, hein. C'est simplement, on n'est pas Dieu. Et on accepte cette vérité. C'est ça, la foi aussi, hein. Maintenant, je vous rassure tout de suite, hein, il n'y a pas besoin d'expliquer Dieu pour être sauvé, hein. C'est vraiment pas important. Le plus important, c'est quoi? C'est comprendre, hein, qu'il y a Dieu le Père, mais Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. C'est ça le plus important, hein. Il est Dieu. Et j'ai besoin de croire en lui, de le recevoir, hein. C'est pas un petit Dieu, c'est pas une créature, c'est pas un ange. Non, il est l'être divin. Il est celui qui peut me sauver. Et j'ai besoin de l'honorer et le reconnaître pour ce qu'il est. Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis ou que je suis, Yahvé, l'Éternel, vous mourrez dans vos péchés. Il s'est révélé à nous, il a montré qu'il était Dieu, et maintenant il dit, croyez en moi, croyez en moi. Alors j'aimerais juste conclure avec un dernier verset, c'est Jean 5, verset 24, un verset sur lequel on ne s'est pas attardé, mais on va conclure ici. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Jésus dit, celui qui écoute ma parole, et dans le terme grec ici, c'est dans le sens d'entendre et de tenir compte. C'est pas juste j'écoute, ouais, j'ai écouté, non, c'est pas ça. J'entends, je reçois, je tiens compte, hein. C'est considérer, c'est comprendre le sens de ce qui est dit. Voilà, c'est se nourrir, hein, de sa parole. Jésus parle donc d'une écoute qui est attentive, une écoute où on saisit pour soi-même, on le croit, on l'accepte. Eh bien, celui qui fait cela en entendant les paroles de Jésus et qui croit à ce qu'il dit et qui croit en Dieu le Père qui a envoyé son Fils, alors, eh bien, Jésus dit, c'est là où, dans la foi, il reçoit la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Terminé. Mais il est passé de la mort à la vie. Il devient enfant de Dieu. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous recevez cette parole et vous dites, je le crois, oui, c'est vrai. Je l'accepte. Jésus est Dieu. Il est mort pour mes péchés. Et le Père a envoyé le Fils pour me sauver. On va chanter un cantique qui s'intitule « Celui qui croit en moi ».